Chapitre 7 Un casse-tête de forgeron. Quand les rires cessèrent, Aram eut un sourire suffisant. Dans son odeur, plus aucune trace de peur. On aurait juré qu'il avait déjà vu les pistes et qu'il savait tout ce qu'il y avait à savoir. Cela dit, personne n'accorda la moindre attention à son rictus, ni à quoi que ce soit d'autre, à part les empreintes géantes imprimées dans la pierre. Quand Perrine précisa que les chiens des ténèbres étaient partis depuis longtemps, ça n'eut guère plus d'impact. Le jeune homme ne pouvait pas dire comment il le savait, bien entendu, mais de toute façon, personne ne le lui demanda. Une lance de lumière tombait tout droit sur la bande de pierre, l'éclairant vivement. Alors que Trotter s'était habitué à l'odeur de soufre, n'étaient ses oreilles en berne et de sourds hennissements, les autres chevaux renâclaient devant la dalle de pierre légèrement inclinée. À l'exception de Perrine, aucun humain ne pouvait capter cette odeur. Du coup, les cavaliers ronchonnaient contre ce qu'ils appelaient leur fichu canasson. Sinon, ils regardaient la pierre étrangement marquée, comme si c'était une curiosité exposée par une ménagerie itinérante. En voyant les traces, la servante boulotte de Berelaine avait lâché un petit cri, puis faillit glisser de sa jument qui piaffait d'abondance. Distraitement, Berelaine demanda à Anoura de s'occuper de la femme, puis elle sonda la pierre, l'air aussi impénétrable qu'une Aes Sedai. Mais elle serra les rênes de sa monture si fort que le tissu rouge de ses gants se froissa sur ses phalanges. Seigneur capitaine des gardes ailés, son casque rouge orné d'un plumet également rouge, Bertein Galen commandait en personne l'escorte de la première dame. Forçant son hongre noir à approcher de la pierre, il se laissa glisser de selle, s'enfonça dans la neige jusqu'aux genoux, retira son casque et de son œil unique étudia les empreintes. Tenu par une lanière qui faisait le tour de son crâne, un cache rouge dissimulait son orbite vide. Sa mimique indiqua qu'il ne voyait rien de bon, mais ce type était un pessimiste indécrottable. Chez un soldat, supposa Perrine, c'était préférable à un optimisme béat. Ma souris aussi mit pied à terre. Les rênes de sa monture dans une main gantée, elle n'avança pas, mais interrogea du regard les trois matriarches au visage tanné par le soleil. Devant ce spectacle, quelques gardes ailés marmonnèrent entre leurs dents. Pourtant, ils auraient dû y être habitués. Visage noyé dans les ombres de sa capuche, Anoura semblait faire de louables efforts pour ne pas voir les empreintes. Quand elle secoua la servante par l'épaule, celle-ci sursauta, comme si elle revenait à la réalité. Devant sa jument, Masouri attendait, avec son impassibilité coutumière. N'était sa main qui triturait le devant de sa robe, un tic qui trahissait une grande nervosité. Aussi inexpressives que les sœurs, les matriarches échangeaient des regards en silence. Karel se tenait sur un flanc de Névarine, une femme mince aux yeux verts. Et Marline, une brune aux yeux bleus, se campait sur l'autre. Rareté parmi les aïeules, elle n'était pas complètement couverte par leur châle. Très grande, presque une taille d'homme, les trois matriarches semblaient un peu plus âgées que Perrine. Mais pour paraître si sereine et assurée, une personne devait être plus vieille que son apparence le laissait penser. Malgré les colliers et les bracelets d'or et d'ivoire, leurs jupes sombres et le châle qui cachait presque leur chemisier blanc n'auraient pas paru déplacés sur des paysannes. Pourtant, entre les Aes Sedai et elles, aucun doute sur qui commandait qui. En revanche, entre elles et Perrine, on aurait parfois pu se poser la question. Névarine hocha la tête, puis fit un grand sourire approbateur. Cette femme, sourire? Une première pour Perrine. Si elle ne tirait pas la tête en permanence, cette aïeule semblait toujours en quête de quelqu'un à houspiller. Ayant reçu l'aval de la matriarche, Masouri confia ses rênes à un des soldats. Rover, son champion, n'était nulle part en vue. Attendu qu'il ne la quittait jamais, les matriarches devaient y être pour quelque chose. Soulevant l'ourlet de sa jupe d'équitation, l'Aes Sedai avança dans la neige et s'y enfonça de plus en plus. Quand elle eut atteint la pierre, elle passa les mains au-dessus des empreintes, en canalisant le pouvoir, à l'évidence, même si, aux yeux de Perrine, il ne se passait rien de spécial. Les matriarches regardaient aussi, très concentrées. Mais pour elles, les tissages de Masouri étaient visibles. Anoura semblait se désintéresser de tout ça. Comme si elle secouait la tête sous sa capuche, le bout de ses tresses oscilla, puis elle écarta sa monture de celle de la servante, histoire de ne plus être dans le champ de vision des matriarches. Ça l'éloignait de Berelein, qui aurait pu avoir besoin de ses lumières, mais elle faisait toujours de son mieux pour être à bonne distance des Aiel.
Des légendes de feu de camp, qu'il disait,
marmonna Galen, en s'écartant de la pierre avec un coup d'œil en coin pour Masuri. Comme tout un chacun, il vénérait les Aes Sedai, mais pas au point de rester dans le coin quand elle puisait dans la source.
Après tout ce que j'ai vu depuis mon départ de Mayenne,
ajouta l'officier,
je me demande pourquoi je m'étonne encore.
Regard rivé sur les empreintes, Masuri l'ignora superbement. Il y eut du mouvement parmi les gardes ailés, comme s'ils n'en avaient pas cru leurs yeux jusqu'à la confirmation de leur chef. Quelques hommes exhalèrent soudain la peur, à croire qu'ils s'attendaient à une attaque imminente des chiens. Dans un groupe si nombreux, Perrine avait du mal à isoler les individus, mais cette réaction, semblait-il, n'était pas le fait d'une minorité. Galen parut deviner ce que Perrine sentait. S'il n'était pas sans défaut, ce type commandait des soldats depuis longtemps. Après avoir accroché son casque à la poignée de son épée longue, il sourit. Son cache rouge lui conférait une sorte d'aura macabre, celle d'un homme capable de voir un clin d'œil sur la face grimaçante de la mort, et qui s'attendait à ce que les autres le voient aussi.
« Si les chiens des ténèbres nous cherchent des noises, »
dit-il d'un ton puissant,
« nous leur verserons du sel sur les oreilles. Dans les légendes, c'est bien ce qu'on fait, non? Du sel sur les oreilles, et ils se volatilisent. »
Quelques soldats éclatèrent de rire, mais les miasmes de peur demeurèrent. Les histoires de feu de camp, c'était bien beau, mais quand elles arrivaient dans la réalité... Galen approcha de Berelein et posa une main sur l'encolure de sa monture, puis il jeta à Perrine un regard appuyé. Comme s'il ne saisissait pas, le jeune homme resta où il était. Quoi qu'il ait à dire, Galen pouvait parler devant Aram et lui. Vaincu, l'officier soupira.
« Les hommes tiendront le coup, première dame, » dit-il à voix basse. « Mais notre position est des plus précaires. Des ennemis partout, des réserves qui fondent. Les créatures des ténèbres aggraveront encore les choses. Madame, mon devoir c'est de vous servir. Malgré tout le respect que je dois au seigneur Perrine, vous devriez peut-être modifier vos plans. »
Perrine faillit exploser. Ce type voulait abandonner Fail? Mais Berelein intervint sans tarder.
« Il n'y aura aucun changement, seigneur Galen. »
Trop souvent, il était facile d'oublier que cette femme dirigeait un royaume, si petit fut-il. Là, son ton rappelait celui d'une reine d'Andorre peu commode et sûre de son droit. Du coup, sa selle ressemblait à un trône. Assez fort pour que tout le monde entende, elle ajouta.
S'il y a des ennemis partout, avancer n'est pas plus dangereux que bifurquer ou faire demi-tour. Cela dit, s'il n'en était pas ainsi, je continuerais à avancer. Même s'il faut traverser une meute de 1000 chiens des ténèbres, plus autant de trolloques, je contribuerai au sauvetage de Dame Fail. J'ai juré de le faire et je le ferai.
Des vivas éclatèrent. Criant à tue-tête, les gardes ailés levèrent leurs lances, dont les fanions battirent au vent. L'odeur de peur subsista. Mais plutôt que passer pour des pleutres aux yeux de Berelein, ces hommes semblaient désormais prêts à affronter une armée de trolloques. Si Galen était leur chef, ils adoraient leur souveraine malgré sa réputation de dévoreuse d'hommes. Ou à cause, en partie. En jouant de sa beauté, Berelein avait monté assez de hauts seigneurs les uns contre les autres pour empêcher Théar d'annexer Mayenne. Perrine eut du mal à ne pas en rester bouche bée. Berelein semblait aussi déterminé que lui, et son odeur le confirmait. À contre-cœur, Galen inclina son crâne gris. Avant de se tourner vers Masuri, Berelein lui répondit d'un bref hochement de tête. Les mains immobiles, l'Aes Sedai étudiait dubitativement les empreintes. Sans être d'une beauté renversante, elle était jolie, peut-être en partie grâce à l'intemporalité des sœurs, et faisait montre d'une grâce et d'une élégance qui devaient sans doute beaucoup, là aussi, à son statut. Souvent, il était difficile de distinguer une Aes Sedai née dans un palais d'une collègue originaire de la campagne. Masuri, Perrine l'avait déjà vue rouge de colère, épuisée et presque au bout du rouleau. Pourtant, malgré les rigueurs du voyage et de la vie avec les Aiel, ses cheveux noirs et ses vêtements étaient impeccables, comme si une dame de compagnie en prenait soin. Dans une bibliothèque, elle n'aurait pas déparé.
« Ma souris, qu'as-tu appris ?»
demanda Berelein.
« Ma souris, réponds voyant !»
L'Aes Sedai sursauta, comme si elle découvrait qu'elle n'était pas seule. Une surprise sincère. Sur bien des points, elle correspondait plus à la Javert qu'au marron. Plus encline à l'action qu'à la contemplation, directe et jamais vague, elle restait cependant capable d'être absorbée par un sujet au point d'oublier le reste. Les mains croisées au niveau de la taille, elle fit mine de parler, mais se ravisa et regarda les matriarches.
« Dis ce que tu as à dire, ma fille !»
fit Névarine, les poings plaqués sur les hanches. Agacée, elle semblait telle qu'en elle-même, mais les deux autres aïelles ne paraissaient pas plus accommodantes. Trois têtes sinistres, telles des corbeaux de mauvais augure perchés sur une clôture.
« Nous ne t'avons pas simplement laissé assouvir ta curiosité. Parle, il nous tarde de savoir !»
Ma souris s'empourpra, mais elle s'exécuta, regard rivé sur Berelaine. Même si tout le monde était au courant de leur relation, elle détestait que les aïels, en public, la rappellent ainsi à l'ordre.
« On sait assez peu de choses des chiens des ténèbres, mais je me suis penché sur le sujet, à mon modeste niveau. Au fil des ans, j'ai croisé le chemin de 7 meutes. 2 fois pour 5 d'entre elles, et 3 pour les 2 autres. »
Ses joues retrouvant leur couleur normale, ma souris prit le ton d'une enseignante, une déformation professionnelle dans l'âge à marron.
Certains auteurs du passé affirment qu'il n'y a que 7 meutes en tout. D'autres penchent pour 9 ou 13, ou tout autre nombre qui leur paraît avoir un sens spécial. Pendant les guerres d'Etreloc, Sorelana Al-Sahan évoque les centaines de meutes qui chassent la nuit, et quelque temps plus tôt, Yvonel Baratilla décrivait les chiens nés des ténèbres, aussi nombreux que les cauchemars de l'humanité. En réalité, il se peut que les écrits d'Yvonel soient apocryphes. Dans tous les cas, le...
Ma souris hésita, comme si un mot lui échappait.
Odeur n'est pas le bon terme, et encore moins parfum. Mais chaque meute a une signature unique, et j'affirme n'avoir jamais croisé le chemin de celle-là. En conséquence, nous savons que le chiffre 7 est erroné. Le bon est-il 9, 13 ou un autre, impossible à dire. Si les histoires les concernant sont légion, les chiens eux-mêmes se montrent rarement, surtout si loin au sud de la flétrissure. Une autre particularité, cette meute compte autour de 50 membres. En général, c'est 10 ou 12. Vous connaissez le dicton. Deux raretés en même temps, il ne faut surtout pas les négliger.
Ma souris leva un index pour ponctuer son propos, puis acquiesça quand elle eut le sentiment que Berelaine avait bien comprise. Alors que la bise, plus vivace, faisait volter les pans de son manteau, elle ne sembla pas gênée par le froid.
Devant des empreintes de chiens des ténèbres, on capte toujours une certaine angoisse, variable selon une foule de facteurs que je ne connais pas tous. Cette piste-là est surtout caractérisée par... une intense impatience. Le mot n'est pas assez fort. De loin, car ça revient à qualifier l'entaille d'une plaie profonde, mais il faudra faire avec. Selon moi, ces chiens sont en chasse depuis longtemps, et leur proie parvient toujours à leur échapper. Malgré ce que disent les légendes, à ce propos, Seigneur Galen, le sel ne fait aucun mal à ces créatures.
Ainsi, ma souris n'avait pas été si perdue que ça dans ses pensées un peu plus tôt.
Malgré ce que disent les légendes, donc, les chiens ne chassent jamais au hasard. Si une occasion se présente, ils peuvent tuer, à condition que ça ne compromette pas leur traque. Pour eux, la chasse passe avant tout. Et leur proie est toujours importante aux yeux des ténèbres, même si nous ne savons pas toujours pourquoi. Il est arrivé aux chiens d'ignorer un grand seigneur pour abattre une fermière ou un artisan, voire de traverser un village ou une ville sans prendre de vie, alors qu'ils n'étaient pas là par hasard. Ma première hypothèse au sujet de leur présence ici doit être écartée, puisqu'ils sont partis.
Ma souris jeta un coup d'œil à Perrine, si bref que lui seul avait dû s'en apercevoir.
En conséquence, je doute fort qu'ils reviennent. Au fait, voici au moins 1 heure qu'ils sont partis. Navré, mais je ne peux rien dire de plus.
Névarine et ses compagnes approuvèrent du chef cet exposé. Ma souris en rosit, mais ça ne dura pas, car elle reprit son visage de marbre d'Aes Sedai. La bise charria l'odeur de la sœur jusqu'aux narines de Perrine. La réaction des aïels l'étonnait et lui faisait plaisir. Un plaisir qui la contrariait, bien entendu.
« Merci, ma souris Sedai, »
dit Berelaine en s'inclinant sur sa selle.
« Grâce à toi, nous serons moins inquiets. »
Aes Sedai hocha la tête. De fait, la peur se dissipait déjà parmi les gardes ailés. Cependant, Perrine entendit Galen marmonner.
« Elle n'aurait pas pu commencer par la fin. »
En plus des bruits de sabots et des rires soulagés des hommes, les oreilles de Perrine captèrent d'autres sons. Les trilles d'une mésange bleue au sud, impossible à entendre pour quelqu'un d'autre que lui, suivi par les jacassements d'une pie. D'autres trilles reçurent sans délai la même réponse, puis le phénomène se reproduisit un peu plus loin. En Altara, il y avait peut-être des mésanges et des pies, mais ces oiseaux-là, Perrine le savait, portaient à l'épaule un arc long de deux rivières. Les trilles signalaient l'approche d'un grand nombre d'hommes, aux intentions possiblement hostiles. Les jacassements... Chez lui, on surnommait souvent les pies « oiseaux voleurs » à cause de leur goût pour les objets brillants. Perrine éprouva d'un pouce le tranchant de sa hache, puis il attendit un autre échange de signaux, assez proche pour que tout le monde l'ait capté.
« Vous avez entendu ?»
lança-t-il, se tournant vers le sud comme s'il venait lui aussi de percevoir les trilles et les jacassements.
« Mes sentinelles ont repéré Massema !»
Tout le monde se tut et tendit l'oreille.
« Il vient vers nous !»
précisa Perrine quand les signaux retentirent de nouveau. En maugréant, Galen vissa son casque sur sa tête, puis monta en selle. Anoura tira sur ses rênes et Masuri battit en retraite vers sa monture. S'agitant sur leur selle, les gardes-ailés exhalèrent de nouveau des relents de colère et de peur. À leurs yeux, Massema avait envers eux une dette de sang, mais à 50, ils n'étaient pas pressés de lui faire rendre gorge, surtout quand une centaine de fidèles le suivaient.
« Il ne me fera pas fuir !»
annonça Berelaine. Les yeux tournés vers le sud, elle plissa le front.
« Nous l'attendrons ici !»
Galen ouvrit la bouche, se ravisa, puis la rouvrit pour beugler des ordres à ses hommes. Le déploiement n'allait pas être un jeu d'enfant. Quel que soit l'écart entre les arbres, une forêt n'était guère accueillante pour des cavaliers. Toute charge souffrirait d'un défaut originel, des forces trop dispersées, et embrocher un adversaire avec sa lance n'était pas facile, quand il pouvait se cacher derrière un tronc d'arbre et en ressortir dans votre dos. Galen tenta d'ériger un demi-cercle défensif devant Berelaine, qui le foudroya du regard. Mais sage saisi, l'officier borgne changea son plan. En formation plus éclatée, les gardes ailés restaient cependant centrés sur la sécurité de leur première dame, sans que ça saute aux yeux cependant. Galen renvoya aussi au camp un homme qui partit au grand galop, penché sur l'encolure de sa monture, sa lance à l'horizontale comme s'il chargeait. Si Berelaine eut un regard désapprobateur, elle ne dit rien. Anoura fit mine de s'approcher de la première dame et s'arrêta quand Masuri cria son nom. La sœur marron avait récupéré sa monture, mais elle était toujours au sol avec les matriarches, toutes assez grandes pour qu'elle ait l'air d'une fillette. Alors qu'Anoura hésitait, Masuri l'appela de nouveau. Perrine crut entendre la conseillère soupirer avant de capituler. Rejoignant Masuri, elle mit aussi pied à terre. Quoique les aïels aient à lui dire, à voix trop basse pour que le jeune homme entende, la tarabonaise ne sembla pas appréciée. Visage toujours invisible, maîtresse très agitée, elle finit par se détourner et remettre un pied à l'étrier. Silencieuse jusque-là, Masuri prit sa collègue par la manche et murmura quelques mots. Tandis que les épaules d'Anoura s'affaissaient, les matriarches acquiescèrent sombrement. Abaissant sa capuche, Anoura attendit que Masuri ait enfourché son cheval, puis elle l'imita. Les deux sœurs allèrent alors rejoindre Berelaine, et les matriarches les accompagnèrent, pour se masser ensuite sur un flanc de Perrine. Ses lèvres charnues dessinant une moue, Anoura se frotta nerveusement les mains.
« Vous avez un plan ?»
demanda Perrine, en s'efforçant de ne pas cacher sa suspicion. Même si elles avaient permis à Masuri de le rencontrer, les Aiel semblaient toujours penser que Massema était de trop en ce monde. Si les Aes Sedai n'avaient pas le droit d'utiliser le pouvoir comme une arme, sauf en cas de légitime défense, les matriarches ignoraient ce genre de limite. Perrine se demanda si elles étaient liées. Au sujet du pouvoir, il en savait plus long qu'il aurait voulu, et assez sur les matriarches pour déduire que Nevarine aurait dirigé les manœuvres en cas de formation d'un cercle. Anoura fit mine de parler, mais elle se ravisa quand Karel lui tapota le bras. Furieuse, la conseillère de Berelaine foudroya Masuri du regard. La sœur marron fit la moue et secoua la tête, ce qui ne sembla pas apaiser Anoura. Serrant très fort ses rênes, elle ne put empêcher ses mains de trembler. Comme si elle lisait ses pensées, Nevarine se tourna vers Perrine.
Notre plan, Perrine Aibara, c'est de te ramener vivant au camp. Même chose pour Berelaine Pyron. L'idée, c'est que le plus de gens possible survivent à ce jour et à ceux qui suivront. Tu as des objections ?
Ne faites rien avant que je vous le dise.
Une réponse vague à souhait.
Rien du tout.
Nevarin secoua la tête, accablée, et Karel éclata de rire, comme s'il venait de faire une grosse blague. Ces femmes avaient reçu l'ordre de lui obéir, mais leur conception de la discipline ne ressemblait à rien de connu. Avant qu'ils tirent vraiment quelque chose d'elles, les cochons auraient des ailes. Perrine aurait pu arrêter tout ça. En réalité, il l'aurait dû. Quoi qu'aient prévu les matriarches, rencontrer Massema si loin du camp, alors que le démon devait savoir qui lui avait volé son sauf-conduit séanchanien, revenait à vouloir retirer sa main de l'enclume au moment où s'abattait le marteau. En matière d'obéissance, Berelein valait presque les aïels. Pourtant, s'il lui donnait l'ordre de rentrer au camp, il y aurait une bonne chance qu'elle obéisse. Oui, c'était probable, même si son odeur affirmait qu'elle ne céderait pas un pouce de terrain. Rester était un risque idiot. De ça, Perrine se faisait fort de la convaincre. Hélas, il n'avait pas plus envie de fuir qu'elle. Une composante minoritaire de son esprit le traitait d'imbécile, mais la partie majoritaire bouillait d'une colère qu'il ne parvenait pas à contrôler. Près de lui, Aram se préparait au pire. Au moins, il n'avait pas encore tiré son épée. La simple vue d'une lame pouvait mettre le feu aux poudres, et l'heure de combattre Massema n'avait pas sonné. Pas encore. Malgré les rayons de soleil qui pénétraient par les trouées de la frondaison, la forêt restait enveloppée de pénombre. Même à midi, il en serait encore ainsi. Perrine fut bien entendu le premier à capter le bruit étouffé des sabots dans la neige et le souffle des chevaux rudement poussés. Peu après, des cavaliers apparurent, presque au galop malgré les dangers du terrain. Un flot disparate et désorganisé qui slalomait entre les arbres, en prenant des risques insensés. 100 cavaliers? Non, le double ou le triple au bas mot. Dans cette marée, un cheval glissa et s'écroula, écrasant son cavalier. Pourtant, pas un fou furieux ne ralentit, jusqu'à ce que l'homme qui les commandait lève une main à moins de 100 pas du groupe de Perrine. Alors, les cavaliers tirèrent tous sur leurs rênes, soulevant un rideau de neige. Dans les rangs, quelques lances se pointèrent sur le jeune seigneur et ses compagnons. La plupart des hommes ne portaient pas d'armure, mais un plastron et un casque dépareillés. En revanche, une épée, une hache ou une masse d'armes pendaient à leur selle. Grâce aux rayons de soleil, Perrine vit qu'il s'agissait d'une horde de ruffians qui n'avaient jamais dû esquisser un sourire de leur vie et n'en esquisseraient jamais. Le jeune homme songea qu'il avait peut-être eu tort de ne pas contredire Berelein. Voilà le résultat, quand la colère vous poussait à prendre des décisions hâtives. Tout le monde savait que la première dame aimait chevaucher le matin, et Massema devait être pressée de retrouver son document séanchanien. Même avec 2 Aes Sedai et 3 matriarches dans les rangs, un combat dans la forêt risquait d'être sanglant. Une boucherie où personne ne verrait qui tuait qui. En l'absence de survivants, on accuserait les bandits, voire les Shaido. Ce ne serait pas la première fois. Et s'il restait des témoins, Massema n'hésiterait pas à pendre quelques dizaines de ses hommes, puis à prétendre que justice était faite. Cela dit, le prophète ne souhaitait pas la mort de Perrine, pour le moment, et il ne devait pas s'attendre à la présence d'une seconde Aes Sedai et de 3 matriarches. Un bien mince espoir auquel se raccrocher et sur lequel miser la survie de Feil. Perrine fit glisser le manche de sa hache dans la boucle de sa ceinture. À son côté, Berelein était toujours un modèle de calme et de détermination. Plus trace de peur, si étrange que ce soit. Aram, lui, exudait l'excitation. Les 2 groupes se regardèrent en chien de faïence jusqu'à ce que Massema se décide à avancer, suivi par 2 hommes qui, comme lui, abaissèrent leurs capuches. Aucun ne portait un casque ou un plastron. Comme Massema, Nengar et Bartou étaient originaires du Chiennard. Comme lui, ils avaient rasé leur toupet, leur crâne désormais aussi lisse qu'une tête de mort. L'avènement du dragon réincarné avait brisé tous les liens, y compris ceux qui contraignaient ces hommes à combattre les ténèbres sur la frontière de la flétrissure. Nengar et Bartou portaient une épée accrochée dans le dos et une autre glissée dans un fourreau de sel. Plus petit que le prophète et son compagnon, Bartou avait aussi un arc et un carquois attachés à ses fontes. Massema n'arborait aucune arme. Logique, puisque le prophète du dragon réincarné n'en avait pas besoin. Perrine fut ravie de voir que Galen observait le gros des forces de Massema, un réflexe d'excellent militaire, car le prophète attirait l'œil. Une aura naturelle ou le résultat de sa sinistre réputation. Massema arrêta son alezan à quelques pas de Perrine. En veste marron et manteau noir, tous deux élimés, cet homme ne payait pas de mine, mais il s'en fichait. Dans son dos, Nengar et Bartou avaient le regard brillant de folie. Très enfoncés dans leurs orbites, les yeux presque noirs du prophète luisaient comme des boulets de charbon dans une forge, et son odeur était celle d'un démon doublé d'un meurtrier. Avec un rictus méprisant, il ignora les matriarches et les Aes Sedai. À ses yeux, les Aiel étaient encore pires que les sœurs, des blasphématrices qui osaient canaliser le pouvoir et des sauvages du désert. Un double péché, en somme. Quant aux gardes ailés, ils auraient pu être transparents.
Un pique-nique ? Demanda Massema en désignant le panier accroché à la selle de Perrine.
D'habitude, le prophète parlait d'un ton enfiévré. Là, il était froid comme une lame, le regard rivé sur Berelaine. À l'évidence, il avait eu vent des rumeurs. La moutarde monta au nez de Perrine, mais il se maîtrisa, décidant de garder sa rage pour plus tard. Elle avait une cible, et ne la gaspillerait pas sur une autre. Aussi morose que son maître, Trotteur montra les dents aux hongres de Massema, et Perrine dut l'empêcher de charger.
« Pendant la nuit, des chiens de ténèbres sont passés par ici. Ils sont partis. Ma souris pense qu'ils ne reviendront pas. Il n'y a aucun souci à se faire. »
Massema ne diffusait pas d'inquiétude. À dire vrai, il n'émanait jamais rien de lui, à part la démence. L'alezan tendit le cou en direction de Trotteur, mais Massema le retint en tirant très fort sur ses rênes. Bon cavalier, il traitait mal ses montures, exactement comme il tarabustait les gens. Quand ses yeux se posèrent sur ma souris, ils brillèrent plus intensément que jamais.
« Les ténèbres peuvent être partout, »
dit-il avec l'assurance d'un esprit dérangé.
« Ceux qui suivent le dragon réincarné, puissent la lumière éclairer son nom, n'ont pas à les redouter. Même au prix de leur vie, ils assureront la victoire finale de la lumière. »
La jument de Massouri piaffa, comme si le regard du prophète lui brûlait la peau. Aes Sedai la calma, puis elle dévisagea Massema, avec l'impassibilité et le calme des sœurs. Rien ne laissait penser qu'elle avait rencontré cet homme en secret.
« Quand on la contrôle bien, » dit-elle, « la peur aiguillonne l'esprit. C'est une source de détermination aussi. Lorsqu'on ne redoute pas un ennemi, on le méprise, et le mépris est le chemin le plus court vers la défaite. »
On eût juré qu'elle parlait à un paysan qu'elle voyait pour la première fois. Anoura, qui ne perdait pas une miette du dialogue, semblait mal à l'aise. Avait-elle peur que leur secret vole en éclats? Ou que leur plan concernant Massema soit réduit à néant? Oubliant Aes Sedai, le prophète se tourna vers Perrine.
« Des partisans du dragon ont découvert une ville nommée Sceau à bord. »
Partisans du dragon. Massema désignait ainsi ses sbires, comme s'ils suivaient le dragon réincarné et pas lui. Qu'ils obéissent aveuglément à ses ordres n'était qu'un détail.
Une gentille ville de 3 ou 4 000 habitants, environ à un jour d'ici, vers le sud-ouest. Un havre à l'écart du chemin des Aiel, avec d'excellentes récoltes malgré la sécheresse. Les silos regorgent de millet, d'orge et d'avoine, et les entrepôts sont bourrés d'autres merveilles. Perrine, « je sais que tu commences à manquer de vivres pour tes hommes et pour leurs montures. »«
Des silos et des entrepôts pleins à cette période de l'année ?» s'étonna Berelaine.
Furieux, Nengar posa une main sur la poignée de son épée de sel. Nul ne s'adressait ainsi au prophète du dragon, et personne ne mettait en doute sa parole, à part les suicidaires peut-être. Les gardes ailés se redressèrent sur leur selle, mais Nengar les ignora. L'odeur de folie de Massema prit Perrine à la gorge. Comme s'il ne voyait pas qu'un massacre se profilait, le prophète dévisagea Berelaine.
« Une affaire de cupidité, » dit-il enfin. « Les négociants en grains de Sceau à bord ont décidé de garder leurs réserves jusqu'à ce que l'hiver fasse exploser les prix. En principe, ils écoulent leurs stocks à l'ouest, au Géaldan et en Amadicia. Les événements survenus dans ces pays et à Eboudar leur ont fait redouter qu'on confisque leurs marchandises. Du coup, ils n'ont plus un sou. Mais leur silo déborde. »
Massema ne cacha pas sa jubilation. Comme toutes les autres faiblesses humaines, grandes ou petites, il détestait la cupidité.
Aujourd'hui, ils sont prêts à céder leurs grains pour presque rien.
Perrine flaira un piège. Pour ça, inutile d'avoir un odorat de loup. Massema aussi avait des hommes et des bêtes à nourrir, et malgré les pillages, il devait également être à court de tout. Pourquoi ne pas avoir envoyé quelques milliers de fidèles dans cette ville, histoire qu'ils se servent? Un jour vers le sud-ouest. De quoi éloigner Perrine de Feil et donner au Shaido l'occasion de regagner du terrain. Pourquoi cette étrange proposition de Massema? Un prétexte pour rester plus longtemps à l'ouest, près de ses alliés séhanchaniens?
Quand ma femme sera libre, dit Perrine, j'irai peut-être à saut à bord.
Comme un peu plus tôt, il capta des craquements d'armure et des cliquetis d'armes. Cette fois, les cavaliers venaient du camp. Pour avoir fait si vite, le messager de Galen avait dû galoper ventre à terre.
« Ta femme !»
lâcha Massema, avec un regard pour Berelaine qui fit bouillir le sang de Perrine. La première dame elle-même s'empourpra.
« Tu crois avoir de ces nouvelles aujourd'hui ?»«
Oui, »
répondit Perrine. Au-dessus du panier de Berelaine, il posa les mains sur le pommeau de sa selle, le seul moyen de s'empêcher de dégainer sa hache.
La libérée passe avant tout. Ses compagnes aussi, bien entendu. Après, nous penserons à ripailler avec les réserves de seaux à bord. Après!
Désormais, les chevaux à l'approche étaient audibles pour les oreilles de tout un chacun. Bientôt, ils furent aussi visibles. Deux longues colonnes composées de lanciers du Gealdan et de gardes ailés, soutenues par des fantassins de deux rivières armés de leurs arcs. Devant une telle force, Perrine espéra que le camp n'était pas resté sans défense. Forcé à bouger après le vol de son sauf-conduit, Massema, un vétéran des conflits le long de la flétrissure et contre les aïels, avait peut-être prévu autre chose que foncer à la rencontre de Berelaine. Là encore, ça faisait penser à un casse-tête de forgeron. Déplacer une pièce ce qu'il faut pour en faire bouger une autre et en dégager une troisième. Mal défendu, un camp était rapidement submergé, et dans cette forêt, le nombre pouvait jouer autant que les forces capables de canaliser. Massema tenait-il à préserver son secret au point de le sceller ici et maintenant? S'avisant que sa main droite reposait sur le manche de sa hache, Perrine l'y laissa. Dans les rangs des sbires de Massema, les chevaux piaffaient, les cavaliers tiraient sur leurs rênes et certains levaient haut leurs armes. Sans broncher, le prophète regardait approcher les renforts. Dans son odeur, rien n'avait changé. Toujours le même fou furieux.
« Tout ce qui sert la lumière doit être fait, »
dit-il, quand les cavaliers et les archers s'immobilisèrent, à 200 pas de distance. La portée idéale pour un archer de deux rivières, Massema l'avait vue de ses yeux. Pourtant, il ne parut pas s'inquiéter qu'une flèche soit braquée sur son cœur.
« Tout le reste, c'est un ramassis d'ordures. N'oublie jamais ça, Périgne jaune, un ramassis d'ordures !»
Sans un mot de plus, Massema fit volter son cheval, puis il alla rejoindre ses hommes, Nengar et Bartou, dans son sillage. Sans égard pour les équidés, tous les trois les poussèrent au maximum, et tant pis pour les jambes cassées et les nuques brisées. Les autres cavaliers suivirent le trio dès qu'il les eut dépassés. À l'arrière-garde, quelques hommes s'arrêtèrent pour tirer le mort de sous sa monture, puis mettre un terme aux souffrances de la pauvre bête. Ensuite, ils entreprirent de la dépecer. Pas question d'abandonner tant de viande. Le cavalier, en revanche, resterait où il était.
Il croit chaque mot qu'il prononce,
souffla Anoura.
Mais où sa foi le conduira-t-elle?
Perrine faillit demander où la foi du prophète était censée le conduire, lui, et où la sœur entendait l'amener. Mais elle se mura derrière son impassibilité d'Aes Sedai. Le bout de son nez pointu rouge à cause du froid, elle soutint le regard du mari de Feil. Exhumer la dalle de pierre constellée d'empreintes monstrueuses aurait été plus facile qu'arracher une réponse à une sœur dans ses dispositions. Mieux valait laisser cette corvée à Berelaine. L'homme qui commandait les renforts fit soudain avancer sa monture. Petit et rablé, en plastron revêtu d'argent et casque à grilles orné de trois courtes plumes blanches, Gerhard Arganda, un vrai dur, était sorti du rang pour devenir, contre toute attente, le premier capitaine de la garde d'Aliandre. Estimant que Perrine avait emmené sa reine dans le sud sans raison, et pour qu'elle se fasse enlever, il n'avait aucune sympathie pour lui. Mais il aurait dû s'arrêter pour saluer Berelaine, voire échanger quelques mots avec Galen. Un officier qu'il respectait, allant jusqu'à converser de longs moments avec lui tout en fumant la pipe. Mais Arganda passa sans s'arrêter devant le trio et talonna sa monture. Tournant la tête pour le suivre du regard, Perrine comprit ses motivations. De l'est, un cavalier approchait, accompagné par une aïeule en chaussures de neige.